Drôle d'écriture, émission conçue et animée par Michel Bernard. Chers auditeurs, bonsoir. Vendredi dernier, entretien à Paris avec Marie Peset, originaire de Cannes, à propos de son dernier livre, Le burn-out pour les nuls. Ce soir, nous revenons dans le pays de Grasse historique, qui, je vous le rappelle, comportait 42 villages et Grasse. Et nous revenons plus précisément dans un sous-ensemble que l'on appelle les Monts d'Azur. De quoi s'agit-il ? D'une partie du Grasse historique, mais de quoi s'agit-il plus précisément ? Eh bien, c'était une communauté de communes, celle des Monts d'Azur, qui comportait 14 communes, et le centre était Saint-Auban. Cette communauté a été dissoute en 2013. 12 communes ont rejoint la communauté de communes des Alpes, de la communauté d'agglomération des Pays de Grasse, et 2 seulement sont partis ailleurs. Les Monts d'Azur, c'est aussi une réserve biologique, et je voudrais la mettre en valeur, y compris pour les Grassois ou ceux qui sont encore dans la nouvelle communauté d'agglomération des Pays de Grasse. Je ne suis pas sûr qu'elle soit si connue que ça. Cette réserve biologique des Monts d'Azur, qui est absolument extraordinaire, située dans une zone naturelle de 700 hectares. Et là, un certain Patrice Longour, qui était vétérinaire dans le sud de la France, qui militait pendant des années pour l'association de préserver des secteurs entiers au niveau des animaux, eh bien, a réalisé quelque chose de fabuleux. Je vous en dis pas plus. Regardez sur Google, réserve biologique des Monts d'Azur, et allez voir. Ce soir, en studio, Gauthier, éditeur, libraire, qui circule en camionnette dans les Monts d'Azur avec environ 500 livres. C'est un cas assez rare en France, pour ne pas dire très rare. Bonsoir, Gauthier.
Bonsoir.
Alors, je suis très très heureux de vous accueillir parce que j'ai passé avec vous une journée sur le terrain et nous allons parler de ce pays des Monts d'Azur. Nous allons avoir un entretien en direct par téléphone avec une personne sur le terrain et dans la deuxième partie avec une autre personne. Mais avant, je voudrais que vous nous parliez de votre itinéraire. Où en êtes-vous ? Comment êtes-vous arrivé à être éditeur libraire et pourquoi vous faites ce que vous faites ?
Oh, j'y suis arrivé tout à fait par hasard. J'y suis arrivé parce que j'avais plusieurs passions. Il y en a une qui a été contrariée, qui était une passion pour le vin. J'ai eu une passion pour l'histoire. J'avais une passion pour l'histoire et une passion pour le livre à côté. J'ai donc démarré avec l'histoire, des études d'histoire. À la sortie, après une maîtrise à la Sorbonne, je me suis aperçu que c'était très bien, mais aucune envie d'être professeur, aucune envie de m'enfermer dans le système de l'éducation nationale, même au niveau universitaire. Donc j'ai abandonné. Et j'ai démarré avec un de mes amis et un autre qui était un illustrateur. Nous avons sorti un livre qui a été un retentissant échec, mais une excellente école. Et puis, quelques années passant, j'ai réécrit un second livre, j'ai monté une maison d'édition, et puis je me suis aperçu que écrire, c'est très bien, j'aime beaucoup ça encore, d'ailleurs je le fais toujours, mais éditer les autres, c'est pas mal non plus, et défendre les livres en tant que libraire et défendre des livres qui sortent d'ordinaire, c'est bien aussi.
Alors, vous faites ça, vous installez dans une commune qui relève du canton de Fayence, pour être plus précis qu'à Lyon, vous éditez et vous êtes libraire sur place et vous prenez une camionnette et vous circulez dans les Monts d'Azur.
Une partie du temps, oui. Parce que c'est pas une circulation à plein temps. C'est je circule 2 matinées par semaine plus les événements culturels des Monts d'Azur qui sont relativement nombreux.
Alors justement, parlez-nous de ces Monts d'Azur à travers cette démarche que vous faites en camionnette sur le terrain. Vous observez, vous regardez, vous partagez, vous créez des relations. Racontez-nous un petit peu votre histoire.
Tout simplement, il fallait bien arriver quelque part et je ne savais pas du tout où aller. Donc, contre l'avantage d'un camion, c'est qu'on démarre le matin et puis on voit où on se pose. Donc je suis arrivé d'abord à Caille. Qui reste un des centres où je m'arrête, avec Saint-Auban. J'ai demandé si je pouvais m'arrêter. Le maire m'a dit tout de suite, il n'y a pas de problème. Et derrière, ils m'ont dit autre chose. Ils m'ont dit, voilà, nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir si tu vas rester. Et effectivement, je suis resté. Je suis resté parce que j'ai rencontré des gens très intéressants. Parce que, au niveau de la culture, il y a des choses à faire, qu'il y a des choses qui se développent en parallèle. Donc aujourd'hui, j'ai toujours mes deux arrêts. Donc Saint-Auban, Caille, c'est le samedi matin, Saint-Auban le jeudi. Et en dehors de ça, je participe à toutes les rencontres littéraires organisées par le Bibliopays, qui dépend de la communauté de communes de Grasse, et qui rassemble une vingtaine, ou même parfois plus que ça, 30 à 40 personnes. Je renonçais à les compter, ils ne sont pas toujours les mêmes. Et je participe aussi puisque quelqu'un a créé récemment un salon du livre là-haut. Et c'est, voilà, j'ai eu la bonne surprise à chaque fois de voir que ça fonctionnait bien. Parfois, là où on était allé, donc là c'était un événement tout à fait annexe puisque c'était les pommes et le pressurage. Tout ça se lit.
J'étais avec vous pour les pommes, je ne suis pas tombé dans les pommes, j'ai trouvé cette journée très vivante, parce que d'un côté, effectivement, on pressait les pommes pour faire du jus de pomme, puis il y avait un certain nombre de gens, dont vous, entre autres, mais il y avait un artiste près de vous, il y avait une autre personne qui vendait des livres plus sur la nature, bref, c'était vivant, c'était intéressant, et j'ai vu que les enfants des écoles étaient quasiment tous venus avec leur maître ou leur maîtresse pour découvrir et discuter avec chacune des personnes présentes.
Ah oui, tout à fait. Non seulement ils viennent, et en plus, c'est beaucoup plus détendu que ce qu'il y a sur le bord de mer.
Alors, quel est votre ressenti sur ces monts d'Azur, sur cette expérience que vous vivez régulièrement? La culture des gens, ce qu'ils font? Parce que les Grassois, et plus largement les auditeurs qui nous écoutent en France et à l'étranger, n'en connaissent pas les monts d'Azur. Vous, quel est votre ressenti? Quelle est la sensibilité culturelle que vous percevez chez les gens? Il y a plein de choses, en mon avis.
En fait, c'est surtout une énorme richesse. Sensibilité, je ne saurais pas le réduire à une sensibilité, au contraire. Je dirais que c'est assez large. Et la culture, alors il y a la culture des gens qui vivent depuis longtemps, il y a celle des gens qui y sont arrivés. Et il y a une culture qui est parfois artistique, qui est parfois liée beaucoup plus au réel et au monde agricole, par exemple.
Alors, le moment de la récolte, c'est un grand moment, c'est ça ?
Non, j'ai dit agricole, désolé, c'était moi.
Au niveau du monde agricole. Alors, justement, ce monde agricole est très divers, si j'ai bien compris quand j'étais sur le terrain. Et ce soir, nous allons avoir en ligne, d'abord, une personne, François, je crois.
Oui.
Qui est, non, ça ne marche pas. Bon, on va attendre. C'est pas grave, du tout. Donc, vous créez des liens, vous découvrez tout ce qui se passe. Et, en l'occurrence, qu'est-ce que vous retenez de cette population? Elle vit à l'écart? Elle est vivante? Elle est ouverte sur le monde? Elle a un regard un peu plus haut que nous parce qu'elle est en hauteur? C'est quoi?
Elle est surtout pas à l'écart. Bien au contraire. Je dirais qu'elle est tournée vers le monde et elle est pas du tout à l'écart. Loin de là.
Alors on va le vérifier tout de suite. Bonsoir Françoise.
Bonsoir.
Moi c'est Eric.
Ah c'est Eric.
Allô?
Oui.
Allô?
Oui.
Bonsoir, oui.
Bonsoir, Eric.
C'est Eric, oui, le compagnon de Françoise, oui.
Eh bien, vous êtes le bienvenu, Eric. Alors, je vais vous laisser Gauthier, qui est avec nous en direct dans le studio, vous poser quelques questions sur votre vie dans ces monts d'Azur, sur la manière dont vous voyez le livre, dont vous voyez votre vie, et la manière dont vous inviteriez tous nos auditeurs à aller vous voir sur le terrain.
Alors, la question que moi je vais te poser, Eric, elle est très simple, justement, c'est... Pourquoi est-ce que les gens viendraient te voir? Moi, je connais toutes les raisons, mais je te laisse les exposer.
Alors, c'est une question difficile, comme ça, en direct. Déjà, bonsoir Gauthier.
Bonsoir.
Alors, pourquoi ils viendraient nous voir? Parce qu'on a des choses à transmettre.
Ah, j'aime bien ce mot-là.
Oui, parce que j'aurais des choses à transmettre. Sur la beauté, sur la vie, sur les plantes, sur tout ce qui nous entoure, la façon de se nourrir, de se soigner, de vivre au rythme de la nature. C'est ce qui me vient comme ça. Voilà,
ouais, mais j'aurais pas dit. Alors tu vois, j'aurais pas dit mieux. Alors c'est bien parce que c'est moi qui pose les questions. J'avoue que j'ai pas l'habitude. Tu vois, comme quoi on est tous les deux débutants. Et je pense en plus. Alors je disais tout à l'heure qu'il y avait beaucoup de choses qui se transmettaient sur les monts d'Azur et en plus que les monts d'Azur n'étaient pas du tout à l'écart. D'ailleurs, je pense qu'on va se retrouver dans pas très longtemps puisqu'on devrait se retrouver. Je pense au festival amérindien. J'ai cru comprendre que tu devais y participer.
Oui, voilà. Effectivement.
Et je te remercie d'ailleurs.
En tant qu'exposant, oui.
Voilà. Donc il y a des choses qui sont très vivantes dans ce que tu fais. Et tiens, j'aimerais bien que tu nous parles d'une petite chose que moi j'ai découvert avec vous, parce que je connaissais les huiles essentielles comme tout le monde, mais pas du tout les hydrolats. Donc essaye un petit peu de nous expliquer ce que vous faites, toi et Françoise.
Oui, alors nous partons effectivement de toutes les cueillettes des plantes environnantes et nous les transformons soit en séchage pour faire des tisanes et aussi nous les distillons. Et donc il sort d'un côté les huiles essentielles de la distillation et l'eau issue de cette distillation et l'hydrolat, ce qu'on appelle aussi eau florale lorsqu'on distille des fleurs. Et l'usage qu'on peut en faire, effectivement, c'est tout d'abord un usage thérapeutique, puisque on extrait l'essence et le principe actif, je dirais, de la plante dans cet hydrolat, et il est très facile à utiliser puisque on peut juste le boire simplement, soit pur, soit dilué, soit l'appliquer sur la peau. On peut aussi l'appliquer sur les cheveux, par exemple, je pense à l'ortie ou la lavande, ça peut servir aussi pour laver les cheveux, pour nettoyer la peau. Et il y a un autre usage encore pour les hydrolats, c'est qu'on peut les utiliser en cuisine. Des cuisiniers les utilisent. Nous en avons un dans notre entourage, dans les Monts d'Azur, qui se trouve à Laudiberg. Et il utilise les hydrolats en tant que plante aromatique dans sa cuisine. Voilà. Pour faire l'éventail de ce qu'on peut faire avec des hydrolats.
Ben, je te remercie. Alors, une petite question aussi importante. Où est-ce qu'on vous trouve et comment? Parce que je sais que vous êtes parfois en déplacement.
On ne se laisse pas trouver aussi facilement que ça. Hein. Ça se mérite.
Donc... Bon, attends, c'est pas le bout du monde.
Oui, disons que nous sommes dans la plaine de Caille, donc pas dans le village de Caille surtout, plus proche de Andon que de Caille d'ailleurs, le long de la plaine, et on nous trouve soit en nous téléphonant si on est perdu, on va vous indiquer la route, soit avec un GPS ou un pigeon voyageur ou enfin, alors on nous trouve souvent à la maison d'ailleurs. Parce qu'on a le champ en face de la maison, autour, et nous faisons beaucoup de nos transformations sur place. Donc le mieux, c'est d'être par téléphone, et aussi on pourra expliquer aux gens au cours de balade, ils pourront s'arrêter et visiter la ferme en saison, bien sûr, puisque à partir du mois d'avril, on commencera à avoir les premières plantes, et il y aura des visites. Il y aura également des ateliers de reconnaissance de plantes comestibles, sauvages, médicinales, où il y aura donc un atelier de reconnaissance, et nous pourrons aussi expliquer comment les transformer afin de transmettre. Voilà, c'était le message du début.
C'est une chose importante, quel est le nom de la ferme?
Alors la ferme s'appelle Terre de Vie. Nous avons aussi un site internet que l'on trouve en tapant sur le moteur de recherche Nature Vivante. Nature Vivante, Terre de Vie, et normalement, le moteur de recherche oriente vers le site internet.
Vous aimez cette vie, Eric, au niveau du Mont d'Azur? Vous n'êtes pas trop coupé du monde ou...
Oh, non, je ne suis pas du tout coupé du monde. D'ailleurs, la preuve, c'est que nous communiquons grâce au téléphone, ou il y a d'autres moyens de communication, comme Internet. Et j'apprécie le contact avec la nature et cette vie qui est au rythme de cette nature. Et nous avons beaucoup de contacts, en fait, et nous nous rendons compte que il y a beaucoup d'habitants dans le coin qui ont besoin de relationner. Et le fait de communiquer avec eux, de partager, va faire que ils viennent régulièrement nous voir, découvrent petit à petit ce que nous faisons au fur et à mesure, parce que nous avons un large éventail. Et nous avons aussi décidé de relier les producteurs des Monts d'Azur, spécialement en bio, plus particulièrement, ou pas d'ailleurs, avec une forme d'éthique, à travers un local qui s'appelle Le Local, et nous faisons un dépôt-vente à travers notre association qui propose donc aux habitants des Monts d'Azur des produits locaux, des fermes locales, donc à ce qu'on appelle à faible marge, donc quasiment prix coûtant, en vente directe. Donc parmi ces produits, il y a donc bien sûr les nôtres, donc hydrolat, tisane, des sirops, tout ce qui est issu de plantes, macération solaire, et aussi en saison dans des fromages, des cosmétiques naturels, du miel, et de la farine, bien sûr, toujours locale, voilà. Donc nous avons fédéré quelque part dans ce dépôt-vente quelques-uns des producteurs des Monts d'Azur et mis à disposition leurs produits auprès des habitants, histoire de, voilà, pour créer comme un pôle. Voilà. Un petit pôle, bien entendu, et on aime bien rester dans cette taille-là, à taille humaine.
C'est bien les petits pôles. D'ailleurs, j'imagine qu'on se retrouve, parce que je vais quand même continuer un tout petit peu sur les Monts d'Azur, mois en avril. J'imagine que je vais vous retrouver à Caille le samedi matin.
Oui, effectivement. Dès le mois de mars ou avril, ça dépendra de la météo et de la température. Nous nous retrouverons, oui, le samedi matin à Caille et vraisemblablement également le dimanche à Andon aussi.
Merci beaucoup Eric, vous avez parfaitement mis en valeur ce que vous faites et les Monts d'Azur. J'ai beaucoup apprécié ce mot de transmission que vous avez pris, car là on était loin de la consommation, on était dans le relationnel et dans le partage. Merci beaucoup Eric, je pense que nos auditeurs ont bien pris les références pour vous retrouver, et l'émission qui va être mise sur un site international comportera une note où il y aura ces informations. Merci beaucoup Eric, bonsoir.
Bonsoir.
C'est moi qui vous remercie.
Voilà, c'est un témoignage assez intéressant, pour ne pas dire plus, parce que ça montre une culture de terrain. C'est la culture de la transmission, du partage, oui. La culture de la nature.
Oui, tout à fait. Ça fait partie des points importants de la culture. Elle se situe à tous les niveaux, et je pense que la culture principale, la culture la plus importante, se situe au niveau des personnes et au niveau des savoir-faire. Et d'ailleurs, systématiquement, les personnes qui ont un savoir-faire ont une connaissance culturelle.
Merci beaucoup, j'allais dire Gauthier, parce que réunir à la fin de cette première partie la culture de la nature, du terrain, du paysan, la culture du livre et la culture de la relation, quoi de plus beau? C'est peut-être le sens profond du mot culture, après tout.
Je pense.
Merci. Ne quittez pas l'antenne, chers éditeurs. Nous allons avoir les informations et nous reprendre tout à l'heure pour la deuxième partie. Continuons, chers auditeurs, la découverte des Monts d'Azur. Nous allons accueillir dans cette deuxième partie Adrien, qui est un spécialiste des légumes, je crois, Gauthier, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
Mais avant de l'accueillir, je voudrais vous poser une question qui va vous surprendre sans doute. Gauthier, avec l'expérience que vous avez, avec le parcours que vous avez, si vous étiez ministre de la Culture, quelles sont les grandes décisions que vous prendriez ? Parce que moi, je vois les subventions à droite, pas toujours justifiées, les subventions à gauche, pas toujours justifiées, certaines subventions qui devraient avoir lieu et qui n'ont pas lieu. Bref, que feriez-vous si vous aviez l'autorité du ministre de la Culture pour la culture ?
Alors, une chose extrêmement simple. Je veillerais à maintenir les infrastructures et les lieux d'expression ou les lieux de production. Tout le reste, pour moi, n'a pas beaucoup d'intérêt. Un artiste n'a pas besoin d'être subventionné pour exister. Ce dont il a besoin, c'est d'un endroit pour exposer. Un écrivain a besoin d'un endroit pour pouvoir parler de ses livres, pour pouvoir aller au-devant du public. C'est aussi simple que ça. Et un producteur ou un artisan a besoin simplement d'un endroit où il peut vendre et vivre de son art.
Autrement dit, si j'entends bien, Gauthier, vous êtes en train de me dire que les subventions, parfois franchement exagérées, pour certains artistes, pour certains festivals, pour certaines situations, ne sont pas forcément pertinentes, et que vous revenez à des choses toutes simples. pouvoir s'exprimer, pouvoir produire, pouvoir échanger, pouvoir communiquer.
Je vais être extrêmement concret. Quand j'étais plus jeune, voire quand j'étais au collège, j'ai pu aller voir Galabru jouant Molière dans une petite ville de province avec 6000 habitants et d'autres. Il n'a pas été le seul, c'est celui qui m'avait le plus marqué. Pour une simple raison, c'est qu'il y avait les lieux pour le faire. Il y en a toujours, mais il n'y en a pas toujours suffisamment, et ils sont souvent en danger. C'est assez dommage. De la même manière, alors là on n'était pas en France, j'étais aux États-Unis, j'ai été voir un artiste majeur qui est Carlos Santana au milieu d'une salle avec 400 personnes. C'est de toute façon que ça, c'est ce qui est pour moi le plus important.
Autrement dit, priorité aux espaces de rencontre, d'échange, de communication.
Bien sûr.
C'est vous, pour vous, essentiel.
Ah, pour moi, c'est quelque part le nerf de la guerre.
Et nous avons parlé en coulisses tout à l'heure de la manière dont un auteur de livre doit lui-même présenter son livre, en parler, le vendre, etc.
Oui, tout à fait.
C'est bien votre esprit.
Oui, c'est essentiel. De toute façon, un livre se vend par son auteur, quelque part, à condition aussi, il ne faut pas oublier qu'un auteur ne doit pas oublier d'écouter. Ça, c'est la première chose à faire. Pareil pour un libraire, parce qu'il faut d'abord écouter ce que les personnes en face vont vous dire pour pouvoir leur répondre et pouvoir leur amener quelque chose.
Alors, faites-vous nommer ministre de la Culture tout de suite, parce que
non,
je
merci.
Pense... Eh oui, mais souvent, les gens compétents disent non, merci, et laissent la place à d'autres.
Parce qu'il y a d'autres moyens.
Peut-être. Et vous avez trouvé suffisamment de moyens dans les Monts d'Azur pour faire avancer ces idées ?
J'espère.
Alors, nous avons Adrien en ligne. Adrien, bonsoir.
Bonsoir, Adrien.
Oui, bonsoir.
Alors, je vous laisse Gauthier l'interroger, parce que vous le connaissez bien. Allez-y.
Tu vois, je fais tout le travail ce soir. Donc, je voulais. J'ai pensé à toi parce que, tout simplement, Michel Bernard a demandé s'il y avait des personnes intéressantes à qui poser des questions, et t'en fais partie, puisque tu es un producteur de légumes, et un producteur de légumes installé dans les Monts d'Azur, et comme je disais, en plus, un passionné de science-fiction. Donc, je trouvais que les deux étaient assez intéressants. Je voulais un petit peu que tu nous dises ce que tu faisais en tant que maraîcher.
Déjà, je me suis installé quoi, il y a maintenant 6 ans que je suis installé dans le coin, 2 ans à mon compte, et voilà, je commence à produire un peu toutes sortes de légumes, et principalement des légumes de conservation.
Ouais, j'avais remarqué, voilà. D'ailleurs, j'ai bien apprécié. J'imagine que est-ce que tu bon et comment quel est le développement que tu veux que tu voudrais avoir toi et qu'est-ce qui te paraîtrait le plus important pour pérenniser ton activité?
Pérenniser mon activité, c'est déjà en bonne voie, donc après c'est juste que continuer l'effort dans lequel je me suis lancé, continuer à produire comme je fais actuellement et améliorer après aussi certaines cultures et aussi protéger aussi un peu les cultures du gibier. L'année qui vient de passer, il y a eu beaucoup de dégâts.
Et je me souviens.
Voilà. Pardon ?
Oui, oui. Et on te trouve où pour trouver tes légumes ? Où est-ce qu'on va les trouver ?
Je vends proche de chez moi pendant la période de mai à octobre au Moulin du Palis, sur la commune de Saint-Pierre. Après, je suis le jeudi matin à Saint-Auban, devant le bâtiment de la maison de service au public. Et le vendredi après-midi, au pont Charles-Albert, à Gibet. Et on peut aussi retrouver une partie de mes produits sur le site 21paysans.com.
Ah bah super. De toute façon, on va se retrouver, je pense, de nouveau un peu avant que, pendant que je reprends, au moment où je reprendrai l'activité, vers Saint-Auban.
Ah, Bah oui, certainement. Et j'attaquerai peut-être un peu plus tôt la saison, mais les jeudis, il y a les partenaires qui montent à cet endroit, à Saint-Auban.
Bah, ça va être avec plaisir.
Voilà.
Adrien, vous vous intéressez aussi aux légumes anciens ?
Pas spécialement, mais je regarde un peu et je fais des tests. J'en cultive un peu à côté pour voir comment ce qu'ils donnent. Et voilà, après, c'est même après dans les variétés que j'ai actuellement, des variétés en partie anciennes. Et que en fait, maintenant, elles sont courantes. Quoi. C'est juste qu'elles reviennent au bout du jour.
Gauthier, vous avez une dernière question à lui poser ?
J'avoue que non, parce que j'ai... alors, si ce n'est que, de toute façon, j'ai apprécié de goûter les légumes. Donc, je sais déjà que je vais les retrouver. Voilà.
Merci, Adrien. Merci beaucoup de rendre hommage au Mont d'Azur, à vos légumes et d'avoir pris la parole en direct. Merci beaucoup et belle soirée, Adrien.
Bonsoir.
À vous aussi. Au revoir.
Alors, ces gens parlent... Peut-être c'est la première fois qu'il parle à la radio, finalement. Il parle de ses légumes, il parle de... On a l'impression d'explorateurs, de gens qui se passionnent pour ce qu'ils font, que ce soit les huiles essentielles, les légumes et plein d'autres choses. Si vous aviez 3 vœux à faire pour ces Monts d'Azur, quels sont les 3 vœux que vous feriez ?
Que la passion soit préservée, oui, parce qu'effectivement, il y a des passions. Que la qualité de leur travail soit préservée aussi. Parce que je pense que c'est essentiel on va résumer ça en une chose toute simple, qu'ils gardent leur âme.
Ils ont un lieu où l'oxygène est intense et présent et ils peuvent peut-être plus garder leur âme que dans certains lieux. Non, il faut des conditions pour garder son âme.
Sans aucun doute. Et puis il faut de la volonté aussi.
Sans aucun doute aussi. Alors, oui, rajoutons la volonté, la ténacité, l'énergie créatrice, je crois que c'est essentiel. Gauthier, quelques mots, vous êtes éditeur. Vous avez emporté avec vous votre dernier livre ou est-ce que vous pouvez nous en parler ?
Oui, tout à fait. En fait, il y en a 2, donc j'en ai pris 2 parce que je ne peux pas choisir entre l'un et l'autre. L'un, ils sont sortis tous les deux, on était en octobre de l'année dernière. Donc l'un s'appelle Jack. C'est un livre sur une histoire de citrouille, sorti pour Halloween. L'auteur s'appelle Marie Tibi. C'est quelqu'un avec qui on se connaît depuis quelques temps. C'est une auteure que je trouve de grand talent, qui en est maintenant pratiquement à 25 livres, qui est une dame adorable, qui écrit des histoires qui, moi, m'ont toujours fait vibrer, me font toujours vibrer, quelles qu'elles soient. Et là, c'est une illustratrice. Malheureusement, la radio ne permet pas de montrer.
Non, mais moi, je le vois et voilà. Je peux dire aux auditeurs que c'est remarquable.
Qui s'appelle Laetitia Oscar-Campedelli. Et Laetitia est une peintre. Ce qu'elle fait est somptueux. Elle est, en plus, c'est quelqu'un d'un peu particulier parce qu'elle est professeure en lycée, elle est professeure d'art plastique. Au départ, elle a un CAP, comme quoi le talent peut amener à tout. Elle est graveur, ce que j'avais découvert après. C'est 2 personnes que j'aime beaucoup. Et de toute façon, quand je sors un livre, il faut que je l'aime. Donc de toute façon, si j'aime pas le livre, je ne le sors pas.
Alors, il est pour quelle population ce livre ?
C'est toujours du jeunesse, parce que je suis un éditeur jeunesse et je resterai un éditeur jeunesse, désolé pour tous les autres. C'est parce qu'à un moment, il faut bien faire des choix. Et comme petite maison d'édition, idéalement, à mon sens, on sort entre 3 et 4 livres maximum par an. Au-delà, on s'étouffe. Donc de toute façon, il faut
choisir.
Il faut choisir. Et l'autre, tout bêtement, est un livre de coloriage qui s'appelle Le Poète, qui est une artiste de Calian, qui est une amie qui s'appelle Galka. Cette artiste, a fait des choses extrêmement gaies. Moi, elle me remet toujours de bonne humeur. Je regarde une de ses peintures pour que le cafard s'en aille. Donc du coup, il y a quelques temps de ça, on a fait un premier livre. Qui était un premier livre de coloriage qui s'appelait Plume on a donc lancé le deuxième. Plume est actuellement épuisé malheureusement, mais devrait finir par être réédité dès que c'est possible.
Comment on les trouve, ces livres, à défaut d'aller à Callian ou dans les Monts d'Azur, en vous suivant avec votre camion? Comment les trouver?
Alors, on les trouve sur tous les... Alors, on peut les trouver chez certains commerçants, quelques librairies, entre autres à Cogolin. On va les trouver à Toulon, dans une librairie qui est du moins aux alentours de Toulon, dans une librairie qui s'appelle l'Atelier Imaginaire. On peut en trouver quelques-uns chez Charlemagne de temps en temps, mais ça, c'est plus rare. Et on va les trouver sur les salons où je me rends, parce que je ne suis pas toujours que dans les villages et que je vais sur tous les salons littéraires possibles.
Vous avez un site aussi?
J'ai un site. Le site, aujourd'hui, disons que j'ai plus une adresse internet.
Alors donnez-la.
Tout simplement, qui est ratatosque.book@gmail.fr.
Alors,
Ratatosque.
Je fais exprès. N'est-ce je me mets à la place d'un auditeur qui a mal entendu. D'où vient ce nom et comment on l'écrit?
Ratatosk. C'est très difficile à prononcer, mais ça s'oublie jamais. C'est simple, c'est un écureuil, et cet écureuil est un messager.
Mais il vient d'où, cet écureuil?
Pays nordique.
Ah,
mythologie viking.
Ben voilà ce qui est passionnant, c'est original au moins. Et pourquoi vous avez choisi plutôt que un autre nom? Enfin, il y a bien une raison d'aller chercher dans le nord, chez les vikings, le nom.
Parce que le premier, j'avais dit que j'avais fait une école qui était le premier livre que nous avions fait avec un ami. Cette école était un livre de fantasy, un jeu de fantasy, ce qu'on appelait un jeu de rôle, et que au moment où nous cherchions des noms, Ratatosk était à un moment sorti, il n'avait pas été utilisé, que à la sortie, j'ai demandé à cet ami s'il était d'accord que je l'utilise pour la librairie.
Et vous l'avez utilisé,
avec
les résultats que l'on connaît. Gauthier, une question. Vous êtes au cœur, j'allais dire, du livre, de l'écrit, en étant éditeur, en étant libraire, en étant lecteur, en circulant. Comment vous voyez l'avenir du livre, vu d'où vous êtes?
Alors, je le vois plutôt de manière positive. Je ne suis pas du tout pessimiste sur l'avenir du livre, mais je vois aussi, du moins je pense, qu'il a besoin d'une sérieuse mutation. Et qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui a été créé il y a quelque temps, années 90, et qui est aujourd'hui totalement obsolète et qui doit changer. Les libraires doivent changer, les éditeurs doivent changer, et quelque part, les auteurs doivent revenir à ce qu'ils étaient, et tout ça doit être pris en considération.
Vous voulez dire que tout ce qui gravite autour de l'écrit, et donc du livre en particulier, doit changer, que ce soit l'éditeur, que ce soit le libraire, ce soit l'auteur?
Pas la totalité.
Non.
De toute façon, il y a les places sont différentes.
Les places sont différentes. La mission, la profession est différente de chacun.
Oui, tout à fait. Tout à l'heure, nous parlions d'Amazon. Je fais partie des rares libraires à ne pas forcément taper sur Amazon. Je vais être haï pour dire ça, mais c'est simple, je ne vends pas la même chose qu'Amazon. On ne peut pas trouver sur Amazon ce qu'on va trouver chez moi. En tout cas, pas facilement, pas si on ne connaît pas.
Autrement dit, dans votre camionnette, il y a des secrets d'Ali Baba qu'on ne retrouve pas chez Amazon.
On peut les retrouver si on les connaît.
Oui, bien sûr, mais il faut les connaître.
C'est ça.
Ceci vient de coups de cœur que vous avez, mais c'est aussi en écoutant les gens, en écoutant leurs désirs, leurs recherches, non ?
Oui, c'est de rencontres, et beaucoup de livres, je découvre ou je redécouvre des auteurs par les lecteurs. Je ne pourrais pas travailler correctement si je n'avais pas des rencontres littéraires avec des personnes qui ont lu, qui ont énormément de culture et qui vont soit me faire découvrir quelque chose, soit me ramener à quelque chose, soit à qui je vais faire découvrir quelque chose. Mais de toute façon, la rencontre et l'humain est au cœur de la maison d'édition et de la librairie.
Oui, mais répétez ce que vous dites parce que c'est essentiel. Répétez-le, Gauthier.
Que l'humain est au cœur de la librairie.
Voilà.
Il est au cœur de ma librairie, en tout cas.
Oui, et d'un certain nombre, Dieu merci, mais pas de toutes les librairies. Car il y a des librairies ou des éditeurs qui sont dans une logique de production, de consommation. Vous avez une autre conception, c'est l'humain. C'est l'interrelation, c'est l'écoute, c'est le partage, c'est bien ça?
Oui, c'est ça. Et c'est aussi parce que, tout simplement, on ne peut pas faire chacun le même métier. Et que quelque part, l'intérêt pour un libraire indépendant, c'est bien ce qui est indépendant et ce qui va sortir aussi du lot.
Tout à fait. Alors avant de clôturer cette émission, écoutons Le Printemps. Je pense que c'est de bonne mise dans toute cette émission. Nous attendons le printemps qui est déjà en marche, là, qui arrive tout doucement, enfin, dans cette région du Pays de Grâce historique, il y a le mimosa qui est largement arrivé, il y a d'autres fleurs. Et pour tous ceux qui ne les ont pas, eh bien, écoutons le printemps, il vient, je vous l'assure, en tout domaine, même autour du livre. Alors, tout en écoutant peut-être ce printemps en filigrane tout doucement, en arrière-fond, Gauthier, si vous aviez encore quelque chose d'essentiel à nous dire autour de l'écrit, de l'auteur, du livre, sans oublier les bibliothèques, les médiathèques, etc., que diriez-vous ?
Partagez et transmettez.
Partagez et transmettre ?
Oui.
C'est essentiel pour vous ?
À mon avis, c'est oui, c'est tout à fait essentiel.
Alors, merci beaucoup, Gauthier, de votre témoignage.
Vous.
Merci de nous avoir fait aimer les Monts d'Azur, pas la Côte d'Azur, les Monts d'Azur, ce qui n'est pas pareil. Et puis, merci de votre témoignage comme éditeur, libraire, auteur, au niveau de la transmission et du partage.
Merci, bonne soirée.
Chers auditeurs, nous nous retrouvons demain soir pour accueillir quelqu'un qui s'appelle Bertrand Vergely, qui est un grand essayiste que vous connaissez peut-être pas et que j'espère vous faire aimer. C'est un homme assez exceptionnel et qui nous parle d'une autre manière du monde contemporain. À demain soir.